vous êtes bien sur Canal Sud 92.2 FM. Nous sommes le mardi 24 janvier 2017. Il fait froid, mais il est midi et c'est l'heure du magazine. Magazine consacré aujourd'hui à Jack London.
Et oui, on est très content de consacrer ce magazine à l'écrivain américain, mort il y a quasiment 100 ans, hein, c'était en novembre 2016. Nos invités sont là, Mathilde, Sébastopol, Gilles. Voilà, avec eux, on abordera ces 4 jours de rencontres, de discussions qui auront lieu à Terra Nova à partir de demain, mercredi, et jusqu'à samedi. Voilà. Et puis, bah, écoutez, évidemment, avant ça, il y aura les petites annonces, il y aura quelques petits sons, notamment autour de la fermeture du collège à la Rainerie et à Bellefontaine. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre ?
J'étais à Toulouse, je suis pas née à Toulouse. Donc en 2001, ça faisait 3 ans que j'étais là. Donc l'Oniage, je voyais même pas ce que c'était. Je voyais bien cette tour, je passais devant tous les jours, mais je venais de m'installer à Bagatelle et j'enseignais à la Rainerie. Donc ce jour-là, 10h17, moi je suis dans ma classe. C'est l'heure du goûter à la Rainerie. Donc on est en maternelle là, bien assis. Le premier boom, franchement, on n'a pas beaucoup bougé parce que la Rainerie, les booms, c'est pas ce qui manque. On s'est dit que bon, il y avait peut-être encore une voiture qui s'était pris un portail quelconque, voilà. Au deuxième, quand même, quand toutes les vitres de la classe sont tombées, on s'est dit que ça valait le coup de faire sortir les enfants parce que peut-être on savait pas trop ce qui se passait. Et franchement, il y a bien dû avoir un petit quart d'heure où on s'est dit c'est quelque chose dans la cité qui se passe. C'est après, c'est quand les gens sont arrivés les uns après les autres en sang. On a passé bien 2 heures à faire du soin de première urgence, d'accueillir des gens, de gérer des hémorragies, parce que personne n'arrivait, il n'y avait pas de téléphone, on n'arrivait pas à contacter les pompiers. Les collègues qui étaient partis chercher les pompiers sur la route, en fait, les pompiers ne venaient pas au fond de la cité. Ils allaient en centre-ville, mais ils ne s'arrêtaient pas chez nous. Donc, on a passé 2 heures à faire ça. Mais en sortant, où tous les gens étaient dehors, nous, on respirait ce truc-là. Et c'était comme respirer de la javel, quoi. Moi, j'ai arrêté de fumer. Hein. Je vous le dis tout de suite. J'ai dit, vu l'état de ma gorge... Après, moi, je suis partie chercher mes enfants qui étaient donc dans les écoles qui étaient juste dessous, là. Mais c'était bien 2 heures plus tard. Et là, toute la Faouret, tout le quartier était gris, quoi. Il y avait comme une pluie de cendres, comme ce qu'il y a dans des incendies quand les cendres retombent. C'était très gris. Et on est rentré le soir à Bagatelle. Et alors là, c'était juste magnifique parce que tout Bagatelle était rouge. Toutes les feuilles, tous les bâtiments, tout c'était complètement recouvert d'une couleur rouge. Voilà, j'ai compris que c'était la terre du cratère qui était redescendue. Mais depuis, on cultive super bien dans les jardins. Ça pousse à n'en plus finir. Cette année-là, on a eu les plus beaux légumes de toute la vie.
Alors toi, ça avait pété à l'école, mais ça avait pété ta maison aussi.
Ah bah oui, tant qu'à faire, autant faire la totale. Et ça avait pété les enfants. L'école, on a réussi à sortir tous les enfants avant que le plafond ne tombe. Donc ça, c'était pas mal. Après, ce qui a été compliqué, c'était les gens qui venaient. Parce qu'on n'est pas préparé. Ce qui est compliqué, je pense, à se rendre compte pour maintenant, 15 ans après, c'est ce qu'on a vécu sur le moment, pour lequel on n'était pas préparé. Et où, finalement, ça va rester parce qu'on n'a jamais pu le résoudre. Par exemple, moi, je n'avais jamais vu quelqu'un avoir une hémorragie. Enfin, je suis instite, hein, je ne suis pas médecin. Voilà, je n'avais jamais dû appuyer sur une plaie pour éviter que la personne, elle perde tout son sang. Je n'avais jamais dû enlever des éclats de verre des yeux de quelqu'un. Enfin, des trucs... c'est des images qui restent comme ça et qui tournent, quoi. Et puis après, il y a toute la culpabilité. Par exemple, moi, j'ai fait ça pendant 2 heures. Et puis, parce que l'Onia, je ne voyais pas ce que c'était, parce que j'avais l'impression que c'était dans le quartier qu'il s'était passé quelque chose. Donc, dans ma tête, mes enfants étaient en sécurité. Et après, quand les gens, mais les amis ou les collègues des autres écoles et tout, ont commencé à venir et à dire, mais ça a pété ailleurs, c'est tout Toulouse qui a pété. Donc, ce qui est arrivé à votre école est arrivé aux autres écoles. C'est là qu'on a réalisé que nos propres enfants qu'on croyait en sécurité ailleurs n'étaient peut-être pas en sécurité. Et donc, du coup, il y a ce truc de... je sors, alors du coup je traverse le quartier, mais c'est la guerre. Enfin, c'est comme les films de guerre qu'on avait vus, c'est-à-dire un embouteillage monstre parce que tout le monde voulait partir en voiture, que personne n'arrivait, la circulation était coupée, les gens avaient abandonné leur voiture un peu partout. D'autres gens qui allaient tous en sens inverse vers le centre-ville avec ces espèces de mouchoirs mouillés là et de masques sur la figure à n'en plus finir. Ces cendres qui tombaient de partout, enfin, c'est très impressionnant. Et moi, j'arrive d'abord à la crèche de ma fille. Donc la crèche n'existe plus, hein. c'était une maison particulière avec une verrière. La verrière n'existait plus, il n'y avait plus que les montants. Ma fille toute seule au milieu de la pelouse avec une dame qui était restée là à la garder, mais la dame était en pleine crise de nerfs, c'était à la limite de la crise d'épilepsie, formidable. Donc on récupère ça, on poursuit le chemin à pied hein, forcément, donc on est à pied, en courant, avec l'affolement, avec tous ces gens qui vont dans l'autre sens, qui hurlent « il faut se confiner, n'y allez pas, c'est l'horreur ». C'est Bagdad, enfin bon, c'est... Tous les gens qu'on croise, ils vous disent ça, ils vous disent vous allez dans le mauvais sens, quoi. Et on arrive à l'école, et à l'école... donc l'école, elle était vraiment de l'autre côté de la rocade, mais sous la tour, quoi. Cette tour rouge et blanche, là, on la voyait tous les matins. Et c'était une école toute neuve, elle avait 3-4 ans d'existence à l'époque. Et donc elle avait plié, elle était en Z. En fait, la structure s'était foutue en Z et le toit était descendu. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus que 1,20 m entre le sol et le plafond, quoi. Donc ça, de loin, déjà, c'est un peu impressionnant. Et on trouve les instits qui restent avec 120 gamins dans un local qui est grand comme, globalement, ce studio, c'est-à-dire même pas 20 mètres carrés, quoi. Parce que c'est le seul espace en parpaing qu'ils ont trouvé pour se confiner, ouais. Et là, l'instit dit, non mais tout va bien, on n'a aucun blessé, on n'a que un blessé, alors tout le monde est rassuré, tout, c'est ton fils. Wouh. Et donc c'est mon fils qui s'est fait écraser par une fenêtre et qui doit la vie au fait que l'instit s'étant rendu compte a retraversé l'école, donc plié, vous imaginez le truc, hein, l'école a plié, l'instit a retraversé toute l'école pour aller le chercher quand elle a vu qu'il n'était pas là, qu'il était resté écrasé sous une fenêtre. Mais bon, ça fait ces images-là qu'on a, t'as beau faire une psychothérapie, moi j'ai pas pris de médicaments, mais essayer de revenir dessus, te dire non, t'es pas coupable, non, c'est pas grave, c'était les conséquences et tout, ça reste dans la tête des gens quand même. Et ça retourne, et on est 15 ans plus tard, et moi je sors encore ce matin, et je me dis bon, tout va bien, mais je sais qu'elle, il se fout toujours en classe, loin de la fenêtre. Voilà, ça reste des choses, quoi. 3, 2, 2, 3.
Dans la banlieue de la ville rose, il s'est passé quelque chose. Il y avait l'usine d'Onia et maintenant elle n'est plus là. Une explosion fantastique n'en a pas laissé une brique. On crut que c'était Ben Laden, c'était l'industrie toulousaine. Tous les bons élus rappliquent, versaient leurs larmes publiques, et d'une vibrante raison, ramenaient l'électeur à la raison. L'ouvrier, le prolétaire, mêlé au cadre vulgaire, partent en fragments épars qu'on ramasse sur un buvard. Des hautes sphères au bas-fond, l'étonnement est profond. On ne savait pas que le progrès faisait des bombes avec l'engrais.
Voilà, nous avons ouvert ce magazine aujourd'hui avec ce témoignage de Patricia qui parle de ce qui lui est arrivé le 21 septembre 2001, l'explosion de la ZF, on s'en souvient. On a ouvert avec ce témoignage parce qu'aujourd'hui s'ouvre à Paris, oui, vous avez bien entendu, le troisième procès de cette explosion de l'usine AZF. Alors on rappelle, hein, 31 morts, dont 21 salariés d'AZF et sous-traitants, 20 000 blessés, 50 000 sinistrés, plus de 25 000 logements touchés. C'est tout simplement la plus grave catastrophe industrielle qui a eu en France après-guerre. Le groupe Total, hein, actionnaire majoritaire de la société Grande Paroisse, hein, propriétaire de l'usine, est aujourd'hui sur le banc des accusés. Alors bon, petit rappel pour ceux qui n'ont pas tout suivi, il y avait eu un premier procès à Toulouse, il y avait eu une relaxe générale faute de preuves, ce qui avait fait grand scandale. Puis, fin 2012, la Cour d'appel de Toulouse avait enfin condamné l'ancien directeur de l'usine à 3 ans de prison, dont un ferme, et la société Grande Paroisse à 225 000 euros d'amende. Alors évidemment, ça paraît pas grand-chose, mais on était un petit peu quand même sur ce qu'il pouvait y avoir comme peine maximale, hein, vu les demandes du procureur. Bon voilà. Donc bon, il y avait déjà, c'était un soulagement de la part des associations de victimes et de sinistrés. Manque de bol, début 2015, la Cour de cassation a cassé le jugement et a ordonné un nouveau procès. Alors, c'est pas du tout une histoire interne au procès, non, c'est pour des raisons externes. En fait, il y a eu une erreur du premier président de la Cour d'appel, voilà, qui a été sanctionné. Il semblerait qu'il ait été jugé partial. Donc, voilà, ce procès a été cassé pour des raisons extérieures, hein. Mais enfin, le résultat est là, et du coup, nouveau procès, sauf que ce procès, il est à Paris, ce qui évidemment provoque la colère des associations de victimes. Je vous lis un petit bout du communiqué de l'association des sinistrés du 21 septembre 2001. Voilà, ce procès à l'extérieur de Toulouse, hein, donc prive pratiquement toutes les victimes toulousaines d'assister au procès. Or, la règle du contradictoire exige que les parties civiles d'un procès puissent assister aux audiences. On va tout droit à une caricature de justice avec une salle d'audience entièrement acquise aux défenseurs du groupe Total. Partie civile et sinistrée, nous serons tous présents à Paris et à Toulouse où une retransmission en direct aura lieu au centre des congrès Pierre Baudis. Donc ça, c'est à partir de cet après-midi, hein, centre des congrès Pierre Baudis. Et donc, il y a rendez-vous qui est pris en ce moment même, hein, entre midi et midi 15, devant la salle Pierre Baudis à Toulouse, avec banderoles et t-shirts. Pour les Parisiens, il y a également un rendez-vous en ce moment, pour les Parisiens et surtout pour les Toulousains qui sont montés pour l'ouverture du procès, devant les grilles du Palais de Justice à Paris. Voilà, le communiqué termine en disant « Cette catastrophe d'AZF est une catastrophe d'une exceptionnelle gravité. Des moyens tout aussi exceptionnels doivent être mis en place pour que les victimes ne soient pas exclues de ce nouveau procès. On ne lâche rien. » On vous tiendra évidemment au courant, hein, de l'évolution de ce procès. On essaiera d'avoir certaines personnes qui sont montées à Paris, pas pour tout le procès, parce que le procès va durer 53 jours. Donc vous imaginez bien, quand on travaille, ou même quand on ne travaille pas, hein, il faut poser des congés, il faut pouvoir se payer un hôtel si on n'a pas des proches sur Paris. Donc évidemment, c'est très compliqué, ce procès parisien. Mais on essaiera en tout cas d'avoir des témoignages de personnes qui sont montées, notamment des personnes qui sont montées pour être partie civile. Et le témoignage, on peut le dire quand même.
Oui, on peut noter que ce témoignage, ça faisait partie d'une série de témoignages qu'on a fait ici à Canal Sud le 21 septembre dernier, à l'occasion donc des 15 ans de l'explosion des ZDF. Voilà, il y a des gens qui se sont succédés dans le studio pour venir parler de ce qu'ils avaient vécu ce jour-là, et puis pour parler aussi de la lutte qui s'en est suivie, pour dire plus jamais ça, ni ici ni ailleurs. On avait aussi organisé toute une semaine autour des catastrophes de l'industrie. Tout ça est réécoutable sur le site canalsud.net, à la rubrique « Quand votre ville fait boum ». Voilà.
Voilà, et donc à suivre un mois et demi qui vont sûrement être un peu difficiles, notamment pour les personnes qui ont vécu cette catastrophe en 2001.
Et qui le revivent encore et encore à travers ces procès sans fin.
Allez, on enchaîne, c'est le magazine de Canal Sud de ce mardi 24 janvier 2017. Et évidemment, on va vous faire, comme d'habitude, les annonces militantes et culturelles. Avec un premier rendez-vous ce soir, 20h30 à la Bourse du Travail, conférence-débat autour de la grève des mineurs britanniques des années 80, 1984-1985. C'est l'Université populaire de Toulouse qui a invité Thierry Labica, coordinateur du livre « Ici, notre défaite a commencé », un livre écrit par Mathilde Bertrand et Cornelius Crowley. Donc en mars 1984, hein, on s'en rappelle, contre un projet annoncé de fermeture de 20 puits de mines et de 20 000 suppressions d'emplois, 140 000 mineurs britanniques s'étaient mis en grève. Une grève qui a duré plus d'une année, un véritable bras de fer avec le gouvernement de Thatcher à l'époque. Entre le 8 mars 1984 et le 3 mars 1985, plus de 11 000 d'entre eux seront arrêtés, 5 653 poursuivis en justice, 200 emprisonnés et près d'un millier licenciés. Derrière les motifs économiques avancés, une véritable stratégie gouvernementale visait à infliger une défaite définitive à la composante la plus combative du mouvement ouvrier, à savoir le syndicat national des mineurs. Voilà. Donc cette expérience emblématique de la désindustrialisation des années 80 en Grande-Bretagne fut largement constitutive de ce qu'on appelle le thatcherisme. Voilà, le thatcherisme, un mot qui revient à la mode, hélas, en tout cas chez certains candidats à la présidentielle. Si vous voulez en savoir plus, c'est ce soir à la Bourse du Travail. C'est gratuit et c'est à partir de 20h30, la grève des mineurs britanniques.
Et cet après-midi à 14h, du coup, on en a parlé hier avec Julien Terrier qui était dans nos studios, réécoutable aussi sur le site canalsud.net. C'est une manifestation régionale du secteur de la santé, du médico-social et du social. Ça se passe à Saint-Cyprien, à Toulouse. Et on nous dit qu'après le succès de la journée de grève nationale et de manifestation du 8 novembre contre la loi Touraine et les groupements hospitaliers de territoire, et au vu du manque d'écoute et de réponse du gouvernement, les syndicats Sud Santé Sociaux, Sud CT, CGT Santé et Action Sociale, les organisations associatives et les syndicats d'infirmiers, infirmières, d'étudiants et étudiantes en soins infirmiers, les associations de défense des usagers et usagères poursuivent résolument la construction d'une mobilisation nationale des branches professionnelles de la santé pour créer un axe de résistance supplémentaire aux politiques d'austérité et de régression sociale qui dégradent fortement les conditions de travail et de vie des salariés. Marisol Touraine a demandé cette semaine le report des opérations non urgentes pour garantir qu'il y ait des lits d'hospitalisation disponibles et envisage le vaccin contre la grippe obligatoire pour les soignants et soignantes. Alors de qui se moque-t-on ? Les gouvernements successifs ferment des lits depuis des années dans les hôpitaux, diminuent le personnel, ferment les hôpitaux de proximité et n'augmentent pas le numerus clausus des médecins. Le numerus clausus, c'est cette limitation des concours de médecins, des gens qui peuvent se présenter au concours.
Oui, limitation des places. Voilà.
Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, une simple épidémie de grippe n'arrive plus à être maîtrisée. Il est donc temps, plus que temps, de renforcer notre système de sécurité sociale et de stopper sa destruction. Système de sécurité sociale qui est censé financer les hôpitaux, on le rappelle. Que ce soit dans le secteur public, dans le privé ou dans le libéral, la charge de travail par agent augmente, détériorant de plus en plus nos conditions de travail, poussant au burn-out beaucoup de personnel et menant certains et certaines jusqu'au suicide. Il en est de même dans le secteur de l'action sociale. 4 suicides au CHU de Toulouse l'été dernier. Partout, les directions parlent de rentabilité, d'austérité, d'économie, etc. Tandis que banques et actionnaires se frottent les mains sur les remboursements d'intérêts mirobolants pour les premières et sur l'augmentation de leurs profits pour les autres. De plus, dans de nombreux établissements de la santé et de l'action sociale, des grèves et des mobilisations sont en cours, notamment pour dénoncer des conditions de travail déplorables pour des salaires de misère. Récemment dans la région, deux de ces mobilisations ont été fructueuses pour les salariés, celle de la clinique Saint-Jean-du-Languedoc et celle de la clinique de l'Ormeau. Donc faisons de ce 24 janvier une grande manifestation régionale avant la grande mobilisation nationale du 7 mars à Paris. Il s'agit ni plus ni moins ici que de la lutte contre la transformation de l'hôpital en entreprise privée pure et dure avec des objectifs de rentabilité et une industrialisation à marche forcée avec tout le monde à la poubelle quoi. Voilà, ça se passe à 14h, place Saint-Cyprien, cet après-midi.
On passe à demain, toujours dans ces annonces du MAG, mercredi 25, donc à 19h, à l'Obs, venez donc manger des frites. Mais oui, des frites pour les prisonniers et les prisonnières. C'est le comité d'action juridique qui organise cette soirée et cette vente de frites à prix libre en soutien aux prisonniers et prisonnières, puisque soutenir les prisonniers, bah, ça passe aussi par l'argent, ne serait-ce que pour qu'ils puissent ou qu'elles puissent cantiner. Alors ce qu'on appelle cantiner, c'est-à-dire avoir accès à la radio, la télé, améliorer un petit peu l'ordinaire de la cantine en achetant des fruits, voilà. C'est sa cantinée et c'est pour ça que le CAJ organise cette soirée de vente de frites à prix libre. Et ce sera évidemment l'occasion de discuter de répression et de dire et de réfléchir à comment s'organiser collectivement pour faire face à cette répression grandissante. Et c'est pas 2017 qui va voir la tendance s'inverser.
Et demain à 20h30 à la salle Castelbou, une conférence débat écologie politique et féminisme. Conférence de Marie Renaud avec les Amis de la Terre à Midi-Pyrénées. L'écoféminisme souligne la relation des femmes à la Terre de façon aussi bien symbolique que matérielle. Outre de nombreuses espèces vivantes, les populations les plus touchées par la crise écologique sont les femmes et les enfants. Les problématiques sociales et politiques de l'écologie sont reliées aux questions éthiques et philosophiques qu'elles soulèvent. Ça se passe donc 22 rue Léonce Castelbou à Toulouse, demain soir à 20h30, conférence débat écologie politique et féminisme.
Je crois que j'ai oublié de donner d'ailleurs l'adresse de l'observatoire hein, juste avant pour les frites. C'est 87 rue du 10 avril. Hein, c'est sur la butte Jolimont.
Ouais.
Tout en haut, il y a l'obélisque. Mais bon, enfin, c'est pas loin du haut, effectivement. Vaut mieux y aller à pied. Demain, présentation, demain mercredi, hein, toujours à 18h, à partir de 18h, à l'auditorium de l'espace des diversités et de la laïcité, il y aura la présentation du 10e festival des films LGBT de Toulouse, festival qui s'appelle Des images aux mots. Alors le festival aura lieu à partir du 6 février, là c'est une pré-soirée en quelque sorte. Trois films seront projetés. Swirl de Peterson Vargas, un film indonésien. Il y aura un film espagnol de Ferran Navarro Beltrán qui s'appelle The Orchid. Et un autre court-métrage, Not K.O. de Xavier Sirvin, film français ce coup-ci. Voilà, c'est gratuit, ce sera suivi d'un verre de l'amitié. Et il y aura la présentation évidemment de toute la programmation de cette 10e édition du Festival des Images Homo. Festival, je le rappelle, du film LGBT de Toulouse, demain à 18h à l'espace des diversités, c'est rue d'Aubuisson.
Et on a une bonne nouvelle ?
On a eu une bonne nouvelle, ouais, ça y est, alors bon, ça fait pas de mal quand même d'avoir une bonne nouvelle, surtout que là, quand même, le début de ce magazine était assez lourd, hein, avec l'explosion de l'usine AZF, ce retour et l'ouverture de ce procès. Eh bien, il y avait un autre procès il y a quelques temps, on avait reçu d'ailleurs Kim, qui était membre d'Action Non-Violente COP21, qui était venu nous parler de ce procès d'un faucheur de chaises. Donc pour rappel, les faucheurs de chaises sont des collectifs de personnes, alors dedans il y a ATTAC, il y a Action Non-Violente COP21, il y avait aussi Bizi qui est un mouvement, un collectif altermondialiste basque, et un membre de Bizi avait été arrêté pour être rentré dans une banque et avoir fauché avec d'autres évidemment des chaises. Ce mouvement-là avait pour but de dénoncer l'évasion fiscale, et du coup tous ces collectifs-là ont décidé de faire de ce procès, de ce premier procès d'un faucheur de chaises, il s'appelait John Palais, et bien d'en faire un grand procès populaire de l'évasion fiscale. C'était à Dax, et bien le tribunal de Dax a confirmé hier à 13h30 la relaxe totale pour John Palais. Je vais vous lire le communiqué qu'en a tiré Bizi, donc collectif basque altermondialiste. En prononçant la relaxe à l'encontre de John Palais, poursuivi pour vol en réunion suite à une action de réquisition de chaises, le tribunal de Dax reconnaît que ces actions ne constituaient pas un vol, mais bien un geste symbolique permettant de dénoncer tant l'impunité fiscale que le manque de financement pour la transition écologique. Il légitime ainsi toutes les actions menées par les milliers de personnes qui ont participé depuis 2015 au mouvement des faucheurs de chaises. Cette décision du tribunal confirme les réquisitions faites lors du procès du 9 janvier, donc lundi 9 janvier, début du mois, par les deux avocates du palais, Eva Joly et Catherine Joly, mais aussi par le procureur de la République qui avait lui-même dénoncé l'évasion fiscale pendant l'audience et avait préféré qualifier les réquisitions de chaises d'emport et non de vol. Donc on voyait que c'était quand même plutôt bien parti. John Palais était le premier faucheur de chaises à passer en jugement suite à une action menée le 19 octobre 2015. Il risquait 5 ans de prison, 75 000 euros d'amende pour vol en réunion. Alors il s'agit d'un véritable désaveu pour la BNP Paribas, nous dit Bizi. BNP Paribas qui est à l'origine de la plainte. Hein. La banque s'est ainsi retrouvée mise sur le banc des accusés le 9 janvier lors de la plaidoirie des avocats, qui ont rappelé l'implication de cette banque dans l'évasion fiscale et sa présence dans les paradis fiscaux. Ce ne sont en effet pas les lanceurs d'alerte et les faucheurs de chaises qu'il faut poursuivre, mais ceux qui pratiquent et organisent l'évasion fiscale. Et cette décision doit servir de leçon à la BNP Paribas pour qu'elle cesse de poursuivre les militants. Bon, alors, ce qu'elle ne fait pas encore, puisqu'elle est pour le moment à l'origine d'un second procès de faucheurs de chaises. Florent Compin, président des Amis de la Terre France, donc les Amis de la Terre qui font, je ne les ai pas cités, mais ils font aussi partie du collectif des faucheurs de chaises. Et ce procès doit se tenir à Bar-le-Duc le 11 avril. Le collectif des faucheurs de chaises appelle à la poursuite de la mobilisation à cette occasion, ainsi que lors de la semaine d'action mondiale contre l'évasion fiscale, qui débutera le 3 avril de cette année, date anniversaire de la publication des Panama Papers. Voilà, le but évidemment de cette semaine, c'est que soient mises en œuvre les revendications concernant l'évasion fiscale et le financement de la transition écologique et sociale. Voilà, une bonne nouvelle. Vous pouvez aller réécouter cette émission fort intéressante avec Kim, où on a parlé pas mal, notamment des faucheurs de chaises, mais aussi du phénomène de l'évasion fiscale. Donc hein, c'était juste avant le procès, c'était une semaine avant le 9 janvier, donc c'est vraiment tout début janvier. C'est réécoutable évidemment à la rubrique Le Magazine sur canalsud.net.
Allez, écoutez un peu de musique.
Ouais, il est temps, une petite pause musicale. c'était la pop 60s de Marie Mathématique qui vient de sortir cet album Marie Mathématique il n'y a pas très longtemps. Le morceau s'appelait, vous l'aurez compris, L'homme éléphant. Allez, c'est l'occasion de commencer quelques annonces concert dans le magazine. Donc Marie Mathématique sera en concert ce vendredi 27 janvier au Ravelin. C'est la première soirée de la saison 2017 de l'Oyster Monster Club. Aux côtés de Marie Mathématique qu'on vient d'entendre, il y aura Sam Flesh, groupe bordelais d'anti-folk et l'électro-gastronomique également de Bordeaux, de Père Dodou Dam Boum. Père Dodou Da Boum. Bon voilà, paf libre mais nécessaire, c'est à partir de 20h au Ravelin. Attention, au Ravelin, les concerts commencent à l'heure car il faut terminer tôt pour ne pas embêter les voisins. C'est pas comme la plupart des concerts toulousains. Là, le Ravelin, quand il y a eu un horaire, vous avez intérêt à y être. Surtout que c'est pas bien grand. Allez, quelques autres dates. Jeudi, à la dernière chance, à partir de 20h, pour 5€, un concert anarcho-punk avec un groupe de Montpellier, Anti-Clockwise, avec un groupe de Hoche, de crust metal, Death Burying, et avec un quatuor punk-rock toulousain au chant féminin, c'est Silly Walk. Tout ça, c'est donc pour 5 boules à la dernière chance, ce jeudi, concert anarcho-punk. On vous signale aussi, puisqu'on les a reçus la semaine dernière dans le magazine, hein, c'était Sandrine et Nelly qui les ont reçus, que ce soir, à partir de 21h30, au Bijou, le festival Détour de Chant organise sa soirée consacrée aux jeunes talents de la chanson française. Ils appellent ça les coups de pouce. Et les coups de pouce, pouce P-O-U-2-S-E, hein, c'est les jeunes pouces de la chanson française, nous disent-ils. Et à partir de 21h30, il y aura le groupe Au Creux de la, suivi du groupe Metz. Les deux hein, étaient sur notre antenne la semaine dernière. Plus d'infos sur détourdechant.com. Alors là par contre c'est un peu plus cher, hein, c'est entre 10 et 12 euros l'entrée ce soir au Bijou. Et puis quand même un petit mot sur les scènes électro itinérantes, scènes ouvertes électro organisées par Bilal du Dakroulam, mais aussi mon camarade dans l'émission Indétartrage. Il organise depuis le mois de décembre des scènes ouvertes électro, une bonne idée, ça a d'ailleurs un grand succès. Ça, il appelle ça les Space Jam Sessions. La prochaine aura lieu au Bout du Pont ce vendredi, au Bout du Pont, donc à côté de la Maïtamouskaria, hein, à côté du Château d'Eau, au bout du Pont Neuf, hein, voilà, d'où le nom du bar. C'est à partir de 21h si vous voulez venir assister à ça en tant que public, mais si vous voulez participer, il faut vous pointer dès 19h. Voilà, Space Jam Session ce vendredi. Allez, évidemment, c'est une liste non exhaustive, les concerts toulousains ne manquent pas.
Tu dis si vous voulez participer à la Jam Session, c'est si on est musicien et qu'on veut.
Si on est musicien électronique, si vous avez une guitare sèche comme notre ami Sébastopol, c'est pas la peine. Hein, voilà. Ouais, mais d'accord. Oui, si vous voulez venir participer, faut venir un peu plus tôt, évidemment. D'ailleurs, je peux le dire, il y a un Facebook, hein, facebook.com/Space Jam Session Toulouse.